France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h22, c'est le plus grand rendez-vous aérospatial au monde, le plus ancien aussi. Le salon du Bourget ouvre ses portes aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine. 2400 exposants venus de 48 pays différents. Un salon forcément marqué par les guerres et les tensions géopolitiques du moment. Bonjour Léo Périapeigné.
Oui, ça a coupé brièvement, je ne sais pas pourquoi.
Bon, alors là je vous entends bien, ne bougez plus. Vous êtes chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, spécialiste de l'armement et de la défense. Le salon du Bourget cette année, il est plus tourné vers le militaire que les précédents, ou en tout cas les projecteurs sont davantage braqués sur ces enjeux militaires ?
Alors, ça fait quand même 3 ans qu'il y a une guerre en Europe et que le salon du Bourget est quand même très orienté militaire. Il y avait déjà une forte teinture sur les drones, la lutte anti-drone et les munitions pour avions de combat au moins l'an dernier. Je ne suis pas tout à fait sûr que des événements qui ont eu lieu à peine une semaine avant le début du conflit le teinte davantage.
Est-ce que tous les grands fabricants sont là ?
Après, oui, maintenant, il faut voir dans quelle mesure ils sont là, sachant que vous pouvez avoir des stands plus ou moins grands. Les opérateurs chinois, par exemple, vont surtout venir avec des maquettes de petite taille. D'autres vont faire un effort qui va être plus conséquent, Dassault, évidemment, en France, mais aussi certains fabricants américains qui vont venir avec des modèles grandeur réelle, hein, qui vont cheminer littéralement en volant.
Est-ce que les industriels montrent tout ou est-ce qu'il y a des innovations qui sont gardées secrètes ?
Non, dans tous les salons, comme Rossatori ou le Bourget, vous avez des tendances. Les industriels vont avoir tendance à montrer évidemment ce qu'ils veulent montrer, ce qui correspond aux besoins du moment. Encore une fois, je pense que la grande mode, ça va être les drones, la lutte anti-drone, la défense anti-aérienne, qui est très à la mode depuis le début de la guerre en Ukraine et qui va le devenir encore plus avec ce qui s'est passé ce week-end. Mais les industriels gardent aussi en interne un ensemble de données et éventuellement quelques bonus, on va dire, qui présenteront aux acheteurs potentiellement intéressés.
Alors justement, vous parlez d'acheteurs pour ce qui est de la défense, hein, je précise, parce que ce salon, évidemment, il y a du civil, il y a du spatial, là, pour ce qui est de la défense. À quoi sert ce salon ? Est-ce qu'on y fait des affaires ? Est-ce qu'on y signe des contrats ?
C'est ça, c'est surtout un salon qui va être l'occasion de prendre des rendez-vous privés, d'échanger. Les grandes entreprises qui ont des très gros stands ont souvent des salles privées sur le côté. On appelle ça des chalets, par exemple, qui vont permettre de prendre des contacts, de prendre de la documentation, pour ensuite établir des relations ultérieures, à un moment où tout le monde sera un peu plus calmé, vu que il faut savoir que le salon, c'est toujours un grand moment d'effervescence. Les industriels sont bien occupés sur le moment, mais encore une fois, c'est vraiment fait pour prendre contact pour plus tard.
Mais qui vient prendre des contacts et des renseignements ? C'est des émissaires de différents États ?
C'est ça,
vous avez par exemple... C'est pas vraiment, c'est pas des particuliers qui viennent, forcément.
Ah, j'aimerais bien, mais c'est pas en vente libre, malheureusement. Non, c'est souvent des hauts gradés, par exemple, ou des diplomates.
D'accord.
Par exemple, je crois que le chef d'état-major de l'armée de l'air roumaine, par exemple, sera là dans la semaine.
Est-ce que c'est aussi un outil de communication, un lieu de démonstration de force ?
Ah, toujours. C'est un moyen aussi de montrer ce qu'on ne peut pas forcément montrer facilement ailleurs. De montrer ça non seulement au grand public, mais aussi aux journalistes de toute la planète. Et souvent aux officiels d'autres armées ou aux représentants d'autres industriels dans le cadre de la compétition entre commerciaux.
Alors, le salon du Bourget se tient à une semaine du sommet de l'OTAN. Les pays membres devraient s'accorder pour augmenter leurs dépenses militaires, se réarmer. On entend beaucoup ce terme en ce moment avec l'Europe, hein, qui veut mettre davantage d'argent pour se réarmer face à la menace russe. Est-ce que la France a de l'argent pour financer ce réarmement ? Et est-ce que les industriels peuvent suivre ? Double question, en fait. Quelles sont nos capacités à nous réarmer, capacités industrielles et financières ?
En fait, le réarmement, ça commence par de l'argent. Il faut que les annonces qui ont été faites tonitruantes sur la loi de programmation militaire de 2023 soient respectées. Or, il s'avère que en 2024, vous avez 24% du budget militaire en dehors des pensions de retraite des militaires qui n'a pas été payé et qui doit être payé donc l'année suivante. Il faut comprendre que dans la loi de programmation militaire telle que modifiée en 2023, vous avez des augmentations tous les ans de plus ou moins 3 milliards pendant un certain temps. Donc là, le décalage qui a eu lieu l'an dernier va absorber non seulement l'augmentation de 2024, mais aussi celle de 2025, puisqu'il faut payer ce qui n'a pas été payé, laissant une marge de manœuvre très faible aux armées. Donc pour le moment, il y a une grogne dans les armées et dans l'industrie, puisque non seulement il y a beaucoup de communication sur l'économie de guerre, le produire plus, moins cher, plus vite, mais comme il y a très peu de nouveaux achats qui n'étaient pas prévus La plupart de ce qui a été acheté l'an dernier était déjà inscrit dans la loi de programmation de 2019. Ça pose un gros problème aux industriels à qui l'État a demandé des efforts, a demandé d'optimiser leur chaîne de production. Or, les quelques augmentations de cadence réelles qui ont eu lieu concernent surtout l'export. Par exemple, dans les munitions, beaucoup de nos munitions partent en Allemagne ou aux États-Unis, mais sont en fait très peu achetées par la France.
Léo Péria-Peigné, évidemment, vous avez suivi ce qui s'est passé ce week-end, cette guerre entre l'Iran et Israël. Ce sont deux pays qui ont une forte industrie militaire. Ils produisent eux-mêmes ou ils achètent à d'autres ?
Alors, c'est vraiment deux acteurs qui sont totalement différents. L'Iran va avoir une tendance à vouloir atteindre une forme d'autarcie la plus poussée possible, puisqu'il a longtemps été un état paria. Il va produire relativement peu de systèmes neufs et surtout modernes. Il va beaucoup chercher à faire des pas de côté. C'est pour ça qu'ils avaient une certaine avance dans le domaine des drones suicides à très longue portée que les Russes ont ensuite achetés pour attaquer l'Ukraine. Ils vont avoir des relations très spécifiques avec certains pays comme la Chine, mais ça reste un peu un pays ermite dans ce domaine-là. Là où Israël va avoir une industrie beaucoup plus intégrée, notamment l'industrie américaine. L'industrie israélienne produit assez peu de plateformes en elle-même, notamment dans le domaine de l'aviation, mais elle a par exemple le droit de modifier en grande profondeur le F-35, donc l'avion de combat qu'elle a acheté aux États-Unis.
Merci Léo Péria-Peigné. J'invite nos auditeurs pour prolonger cette conversation à lire votre dernier livre, Géopolitique de l'armement, instrument et reflet des relations internationales. C'est paru aux éditions du Cavalier Bleu.